La musique, elle doit faire pleurer. L'art doit faire pleurer. Si je dis ça du haut d'une cathèdre, c'est parce que c'est vrai, et c'est d'autres l'ont dit avant moi, donc je n'invente rien. La musique, c'est triste, la beauté, c'est triste, ça doit faire pleurer. Si ça fait rigoler, si ça fait gratter la tête, ou si ça fait sortir les snobs de leur cabinet, c'est pas de la musique, c'est d'autres choses. Voilà.
Mathieu Ferré, bonjour.
Bonjour.
Votre père est surtout connu comme auteur, compositeur, interprète dans le monde de la chanson, mais en fait, son œuvre dépasse largement ce cadre. Dans cette première émission, vous avez choisi d'explorer le parcours musical de Léo Ferré, c'est-à-dire...
C'était un grand mélodiste. Il a été orchestrateur toute sa vie, on l'a souvent empêché. Et puis, chef d'orchestre, il aurait voulu diriger plus de choses et on ne lui a pas... donner les moyens de le faire et ça a été un drame pour lui.
Alors nous allons bien sûr dans cette émission entendre la voix de Léo Ferré et puis des témoignages de Jacques Douet, d'Alain Remacker et d'Yves Régiclis. Alain Remacker, bonjour. Vous êtes directeur artistique chez Harmonia Mundi et plus particulièrement passionné par l'œuvre de Léo Ferré depuis très longtemps, je crois. Je voudrais qu'on parle de l'aspect compositeur de Léo Ferré, de son rapport à la musique d'une façon plus générale.
Ce que je vais dire est un petit peu délicat. Je considère que Léo Ferré est avant tout un compositeur. Alors ça paraît difficile à dire. Quand on constate l'œuvre écrite de Léo Ferré, qui est absolument gigantesque, et donc ça pourrait paraître réducteur, mais je crois qu'il y a une grande injustice, c'est qu'on a oublié la première vocation de Léo Ferré, qui est celle d'un compositeur. Je ne peux pas parler d'une révélation, parce que la révélation, finalement, il l'a eue relativement tard. Il a toujours, dès son plus jeune âge, ressenti qu'il était fait pour la musique, qu'il avait une attirance pour la musique. Et pour lui, ce n'était pas une révélation, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Et c'est quand il s'est aperçu que lui avait ce penchant pour la musique, cette attirance pour la musique, et qu'il était finalement le seul, qu'il était un vilain petit canard au milieu de toute une jeunesse un petit peu qui se fichait de ces choses-là, c'est là qu'il a eu la révélation de ce côté un peu unique, et qu'il a eu cette révélation. Donc ça c'est vraiment très important, et je pense même, j'affirme même aujourd'hui que sans les circonstances, les contraintes de l'époque, Léo Ferré serait peut-être réalisé exclusivement en tant que musicien. Vu ce qu'il a écrit, je ne peux pas nier qu'il aurait rencontré à un moment ou l'autre l'écriture, vu la qualité de son écriture, ce qu'il a apporté, les champs littéraires qu'il a embrassés. En même temps, je crois que c'est les circonstances, l'époque, le métier, qui l'a empêché de se réaliser en tant que compositeur.
Ça vous rappelle quelque chose?
Ça me rappelle quand j'étais un peu, à peine un peu plus âgé que mon fils. J'avais 9 ans, j'étais au collège, pas loin de Monaco. Et pour moi, c'était très loin parce que c'était à 20 km. Et un beau jour, on m'avait lâché dans un collège où j'avais essayé de m'appeler Léo Ferré. Je m'appelais 38. J'étais le numéro 38. Et j'ai été le numéro 38 pendant 8 ans. Et. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, bien sûr. Je ne pouvais pas me l'expliquer, et personne jamais ne me l'a expliqué, surtout à ce moment-là. Et ma maman venait me voir de temps en temps, et elle m'amenait dans une petite crèmerie, à Bordighera, et où un monsieur, que je reconnaîtrai aujourd'hui, maintenant, sûrement, m'a apporté du chocolat soufflé. On appelle ça le cappuccino en Italie. Et c'était extraordinaire parce qu'au collège, il n'y avait pas de chocolat, bien sûr. Et il y avait auprès de moi, sur cette table, un des premiers postes de radio qui marchait avec le courant électrique. Moi, j'avais connu quelques années avant ce qui marchait encore avec les batteries, ce qui me faisait dire à mon oncle, qui était un horloger que j'aimais beaucoup, à mon grand-oncle, je lui disais, « Tonton, quand est-ce que ça marchera avec le trou de l'électricité ?» Il m'avait dit, « Oh, ça, je ne sais pas quand. »
Et c'est donc là qu'un jour, vous avez entendu la cinquième symphonie.
Alors, ma mère était en face de moi, elle m'avait sorti, et j'ai écouté le début de la cinquième symphonie, ce qu'on appelle les coups du destin. Jamais je n'avais entendu ça et je me suis mis à pleurer. Et ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu as, pourquoi tu pleures? Et à ce moment-là, je me suis caché, j'ai menti, j'ai dit, je pleure parce que tu vas partir tout à l'heure. Et ce n'est pas pour ça que je pleurais. Alors j'ai eu honte de ça. Voilà.
Et c'est là que vous avez dit, un jour, je dirigerai un orchestre.
Oui, ben alors j'ai attendu longtemps.
Assez longtemps même.
Très longtemps.
Mathieu Ferré, dans chaque émission, vous nous offrez un inédit de votre père. Aujourd'hui, vous avez choisi une œuvre de jeunesse.
Oui, mon père a écrit 3 chants religieux dans les années 30. Et aujourd'hui, Nadine Chéri, mezzo-soprano, accompagnée par Françoise Mazzocchi, au piano, va nous interpréter un News Dei. Donc merci Nadine, merci Françoise.
Bernard Remakers.
En fait, finalement, le premier instrument auquel il a accès, c'est la voix. Puisque quand il est au collège, il pratique le chant avec les œuvres religieuses de Palestrina ou de Victoria. Et là, il a effectivement une science du chant et une technique vocale qui, on verra plus tard, vont lui être très précieuses. Ça, c'est sa première expérimentation. Après, il a cette rencontre fantastique avec Beethoven et certaines mélodies de Ferré sont très proches de certaines sonates dans l'esprit, dans la façon de travailler les arpèges et les accords qui sont très proches de Beethoven. Donc, je pense que c'est son premier frère jumeau, c'est Beethoven. Donc il va comprendre très rapidement que pour exister en tant que compositeur, il n'y a pas vraiment de place ailleurs que dans la chanson. Et dans un premier temps, il ne va pas écrire lui-même. Il va prendre des textes qui vont être des prétextes à lui de se mettre au piano et de faire de la mise en musique et de sortir des mélodies. Certaines fois, il aura à sa portée des textes de qualité. On peut citer notamment ceux de René Baer, qui sont très bonne qualité. Une chanson comme La Chambre, par exemple, est remarquablement écrite. Et puis d'autres, il sera confronté avec des gens qui lui fourniront des textes qui seront un petit peu moins exigeants. Et au bout d'un moment, il se rendra compte très vite que pour écrire ce qu'on lui propose, il doit être capable de le faire. Donc il se décide d'écrire. S'il n'y avait pas eu cette obligation de passer par la chanson qui semble être le seul véhicule possible pour lui pour s'exprimer en tant que musicien, il se serait sans doute attelé très vite et immédiatement des œuvres beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus riches, avec une exigence dans la composition beaucoup plus importante. Et donc on voit la mise en musique de ces textes-là s'apparente beaucoup à des lieds. Et là, il est vraiment dans la tradition Schubert, peut-être même encore plus de l'école française, du Parc, Forêt et bien évidemment Debussy. C'est d'ailleurs ce qui va lui permettre de mettre de cette manière magnifique les poètes tout au long de sa vie, que ce soit Verlaine, Baudelaire ou Rimbaud. Il y a là une approche équivalente à celle de Forêt ou de Debussy, les mises en musique de certains poèmes de Verlaine par Debussy. Là, il y a un cousinage qui est tout à fait évident. Mais il a ces qualités vraiment d'un musicien classique. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait écrit très longtemps s'il n'avait pas eu des déboires comme au moment de la création de la chanson du Mal-aimé. C'est quelqu'un qui aurait écrit plus facilement des opéras ou des oratorios et qui aurait peut-être laissé tomber un petit peu la chanson. Il aurait gardé de la chanson que tout ce qui s'apparente au lied. Le travail sur les poètes ou certains de ses textes à lui, très, très poétiques, très fouillés. Et je pense que des chansons plus légères, il s'y serait moins intéressé ou il les aurait données à d'autres pour les créer. Il ne se serait pas occupé de faire le piano du pauvre ou des choses comme ça qui sont pour moi des remarquables chansons. Ce n'est pas la question. Mais je pense que lui, sa vocation était ailleurs.
On m'a prêté quatre vieux murs pour y loger mes quatre membres. Et dans ce réduit très obscur, je voulus installer ma chambre. Pour lui donner un air coquet, je suspendis aux murs en pente les diplômes que j'ai manqués et mes décorations absentes. Sur une table, les photos de celles qui se refusèrent, sur des rayons, les in-quarto des livres que je n'ai su faire. J'ai mis derrière les fagots les grands crus de notre royaume. Les Chambertins et les Margaux dont j'ignore jusqu'à l'arôme. Et dans un vaste coffre-fort, rangés en pile régulière, toutes les valeurs et tout l'or que j'aurais pu gagner naguère. Par la fenêtre se glissant, voici qu'un doux rayon bleuâtre est venu remplir mon théâtre d'un mobilier étourdissant. Voici des tapis d'ambition, voici des tentures de rêve. Voici qu'un rideau se soulève sur un chevalet d'illusions. Voici des coussins de serment couvrant des fauteuils de promesses. Et puis des colliers de tendresse et des bouquets de sentiments. Voici le mirage de l'art, voici des songes en rasade. Le divan de Scheherazade et le clavecin de Mozart. La chimère en 4 secondes, décorateur sur champ d'azur, a fait de mes 4 vieux murs la plus belle chambre du monde. La 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 la.
Extrait de l'émission Profil en 1971.
La musique, j'y reviens maintenant parce que, bon, on a beaucoup parlé des chansons, mais on n'a pas tellement parlé de cet oratorio ou des compositions plus importantes que vous avez tentées. Est-ce que c'était pour vous, comment dire, une obligation, une pulsion? Est-ce que vous aviez envie de vous prouver que vous étiez un compositeur plus important qu'un mélodiste de chansons ou quoi?
Oui, alors moi, je n'avais pas envie de me prouver quoi que ce soit. Je voulais faire quelque chose. Et vous savez, c'est un drame parce que j'ai laissé tomber la musique. Il y a combien? Je sais pas moi. Depuis 54 que je n'écris plus de musique. C'est abominable. Et je n'ai plus envie. Parce que c'est une nouvelle, une autre carrière. C'est autre chose. Il faut rentrer dans un autre cycle. Et comme j'ai pas le temps, comme j'ai pas le goût de le faire, je croyais au Père Noël. Quand j'écris ce oratorio, j'ai mis un an. Un an à travailler tous les jours, c'est difficile. J'ai mis ça en musique, la chanson du mal-aimé, c'est une chose monstrueusement longue. J'ai fait ça avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, devant Apollinaire. Mais puis j'ai orchestré ça le mieux possible. Et puis un beau jour, je suis allé avec mes feuilles, avec tout mon paquet de musique, tout fini, chez à la radio, où il y avait un directeur... des programmes qui s'appelait Gilson. Et au bout de 6 mois, j'ai demandé un jour, on m'a envoyé une lettre en me disant que c'était refusé. Et 2 mois après, j'étais à l'Arlequin, et un soir, il y a le prince Régnier qui est venu avec son directeur de cabinet. Et le prince Régnier, je le connaissais comme ça, quoi. Moi, je suis monégasque. Et ma femme, Madeleine, me dit à ce moment-là, écoute, demain, va te demander un rendez-vous. Alors j'étais demandé un rendez-vous, il m'a dit, je reçois demain. J'étais avec ma musique le lendemain, et il m'a dit, je viens chez vous cet après-midi pour écouter. J'ai fini un chanteur qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui est un garçon remarquable, et Jacques Douai, pour chanter les choses importantes, et puis moi je chantais le reste, tout ça au piano. Ça durait même 50 minutes. Il a écouté ça. Il m'a dit, je vous donne l'opéra de Monte-Carlo. Mais ça dure, comme il dit, 50 minutes. Alors, il me dit, c'est pas assez, vous faites quelque chose pour la première partie. Et j'ai écrit comme ça en 15 jours une symphonie, que j'appelais la symphonie interrompue. Une œuvre, musique à programme. Vous voyez. Et en 54 avril, un beau jour, je serai à Monaco. J'avais fait une fois une chose à la radio, mais enfin très petite, avec un petit orchestre. Je suis donc monté au pupitre, à ce pupitre que j'avais vu toute ma jeunesse, où j'avais vu des choses comme Parsifal, enfin, des choses extraordinaires, de grande musique, et où j'avais toujours l'œil sur le chef d'orchestre, quand même, parce que je trouvais ça miraculeux. Je sais que c'est le plus beau métier du monde. Et je me suis mis là, et j'ai dirigé ça. J'ai donné le coup de baguette, comme ça, à quelque chose que j'avais fait, que j'avais mis sur deux papiers, et il y avait moi qui le savais, ce que c'était que cette musique. Et tout ça prenait vie. C'est incroyable. Formidable.
Thank you.
Jacques Douai en 1954 à Monaco, vous créez donc avec l'orchestre et puis mon père qui dirige la chanson du mal-aimé.
Bien sûr, c'est un moment extraordinaire parce que j'ai eu l'occasion de fréquenter des chanteurs pour Léo, des chanteurs vraiment classiques et professionnels qui avaient des voix extraordinaires, en particulier Echeverry, qui a été par la suite mon professeur. Et comme j'avais une petite partition à faire, c'était... Mais chanter sans micro sur une scène de théâtre avec le trac et avec des musiciens indiscutés, indiscutables, je ne pouvais pas faire figure de débutant, j'avais un trac épouvantable, mais on a travaillé pendant 2 mois chez lui, boulevard Pershing, là, où les musiciens venaient répéter, et c'était une ambiance extraordinaire parce que, on se dit, Léo quand même, il a un culot monstre, enfin, de se lancer, parce qu'il y avait toute une partition d'accompagnement extraordinaire. Le texte était fabuleux. S'attaquer au mal-aimé, c'était vraiment un très gros risque.
Ma mère fit un pied foireux et tu naquis de sa colique. Formidable, non ?
Alain Remakers, vous évoquez la chanson du mal-aimé. Je crois que c'est un bon exemple sur lequel on peut dire quelques mots sur justement cet aspect compositeur de Léo Ferré qui allait beaucoup plus loin que la chanson, et ce, dès les années 50.
Oui, parce que c'est la première grande œuvre complètement aboutie de A à Z. Il a écrit d'autres choses avant. Dès 36, on a une trace d'une mélodie sur un poème de Verlaine. En 39, on a la connaissance d'une messe à trois voix qu'il a écrite à une certaine occasion. Il avait commencé à composer une œuvre de scène qui s'appelait La vie d'artiste, qui était une scénarisation. Est-ce que ça aurait abouti réellement à un opéra? C'est un petit peu difficile de le dire, mais non, toutes les traces qu'on a de cette œuvre-là montrent qu'on était vraiment dans ce souffle-là, dans le souffle de l'opéra. La première véritable grande œuvre qui va aboutir, donc très tôt, bien avant ses premiers succès, c'est la chanson du mal-aimé sur le poème de Guillaume Apollinaire. Et là, c'est la musique qui parle, moi j'ai rien à dire. C'est une œuvre majeure du répertoire classique français. Je ne comprends pas que ça ne soit pas mis au programme de tous les grands orchestres symphoniques qui revendiquent de mettre en avant la musique française. Ferré l'a écrite en 1952. Il a pu la jouer à Monaco qu'en 1954, 2 ans après. Il a pu l'enregistrer chez Odéon qu'en 1957, 5 ans après son écriture, sa création. Et finalement, il a pu en donner une version vraiment définitive, aboutie, telle qu'il la rêvait qu'en 1971-72 chez Barclay. Et tout ça au prix de sacrifices, de négociations. Et donc, c'est le disque qu'il faut écouter, quoi.
Voix lactée, ô sœur lumineuse, des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses, nageurs morts, suivrons-nous dans ton cou vers d'autres nébuleuses. Je me souviens d'une autre année. C'était l'aube d'un jour d'avril.
J'ai chanté ma joie bien-aimée, chanté l'amour à voix virile, au moment d'amour de l'année. C'est le printemps, viens-t'en, Paquette, te promener au bois joli. Les poules dans la cour caquette, l'aube au ciel fait de roses plis. L'amour chemine à ta conquête.
Mathieu Ferré, je voulais vous demander de quelle manière Léo Ferré est finalement revenu à la direction d'orchestre au cours des années 70.
Quand il réenregistre la chanson du Mal-aimé, donc en 71, il revient à cette chose, à l'orchestre symphonique, et puis il arrive à monter un spectacle qu'il a tourné d'abord en Suisse, en 74, et puis en 75, le fameux Palais des Congrès, pour lequel il a été très critiqué, on l'a accusé de faire un show hollywoodien, et ça a été difficile pour lui, mais c'est comme ça.
Combien de représentations pour les déconcrets?
32 représentations, toujours complètes. Et il a fait découvrir la musique à des gens qui... La musique classique, on va dire, Beethoven et Ravel, à des gens qui autrement ne l'auraient jamais connu.
Je vous propose qu'on l'écoute le 17 août 1974 au micro d'Yves Morosi.
Et la rentrée à Paris pour quand? Quelques galas, non?
Bon, moi je vais chanter je viens de chanter à l'Opéra Comique cet hiver. Je trouve que Paris ça va pour le moment, quoi. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire.
Ferré à l'Opéra Comique, Ferré à l'Opéra?
Ah oui, alors, oui, sûrement, mais alors ça, il faudra, oui, avec un orchestre, ça, oui, formidable. Oui. J'aimerais vraiment avoir. Un jour, je voudrais diriger Parsifal ou Tristan à Bayreuth. Voilà. Dans quelques années, peut-être.
Dans ces cas-là, on fait tout pour les réaliser, les rêves, ou on attend que ça arrive?
Non, je crois que moi, je n'ai jamais rien fait parce que je suis timide et puis je ne sais pas taper aux portes, je ne sais pas demander les choses, mais j'ai la chance qu'en ce moment, ça vienne à moi comme ça, vous savez.
Parsifal, Léo Ferré, Parsifal, ce n'est pas de vous. Ça vous amuserait de diriger autre chose que du Ferré?
Ah oui, c'est ça que je veux faire. Diriger du Ferré, ça a l'air prétentieux, mais enfin, diriger ma musique, lorsque j'en ai l'occasion. Et je suis en train d'écrire un concerto pour violon pour Ivry Gitlis, que vous connaissez, qui est un grand violoniste, qui a tort de ne pas faire que du violon, d'ailleurs, je trouve. Et je parlais de Parsifal, parce que Parsifal, c'est un désespoir d'enfance. Moi, je venais le voir ici à Monte-Carlo, et il y avait le premier acte dure 1h30, et après, j'étais obsédé par le fait, et romantiquement obsédé par le fait que, après le premier entracte, les gens allaient manger des sandwichs, n'est-ce pas? Parce que c'était très long. Alors après, on retournait. Et alors, pour en revenir à ce que je disais, à Liège, je leur ai proposé, puisqu'ils me demandaient de faire quelque chose de nouveau avec un orchestre, je leur ai proposé d'éteindre la salle comme au théâtre, et d'éteindre la scène. Alors j'arrive, il y a le piano, je dis la vie d'artiste que je fais actuellement en m'accompagnant au piano, et au moment, au lieu de me fâcher à la fin, de taper sur le clavier méchamment, je reste avec les bras comme ça, avec les mains au-dessus du clavier. À ce moment-là, la scène s'éclaire et je donne le départ à l'ouverture de Coriolan de Beethoven, hein. Bon, je finis, ça dure 8 minutes ou 10 minutes, et après, avec un micro-cravate, je chante la chanson du Mal-aimé comme je le faisais à l'Opéra Comique, mais non accompagné par le piano, mais avec l'orchestre. C'est-à-dire, je m'accompagne de l'orchestre. Alors, il y a un entracte, je reviens avec deux, trois choses de moi, et puis, au piano, l'orchestration qui finit. Alors, je vais jouer au piano à la fin de cet arrangement, tout en dirigeant l'orchestre et en disant le texte. Et à ce moment-là, je me lève et je joue l'introduction du piano du concerto pour la main gauche de Ravel. Et au moment où l'introduction finit, c'est-à-dire au moment de la première cadence de piano où le pianiste vient tout seul, le pianiste rentre, c'est un ami à moi qui s'appelle Dagachat, qui est un pianiste suédois qui habite en Suisse, c'est un grand pianiste de très grand talent, il vient et on ne le voit même pas arriver, il faut qu'on voit uniquement sa main gauche sur le clavier pendant la première cadence. Et après, ça c'est clair, on finit le concerto et je reviens avec l'espoir. Voilà.
C'est un concert-spectacle.
Voilà, je crois qu'il faut intéresser les gens comme pour une pièce de théâtre, n'est-ce pas, il me semble.
Mais admettons que Rolf Liebermann nous écoute en ce moment, directeur de l'Opéra de Paris, et qu'après cet entretien, il vous téléphone en vous demandant, je ne sais pas, voulez-vous diriger Parsifal, Don Carlos, enfin, vous accepteriez tout de suite ?
J'accepterai tout de suite le temps que j'apprenne l'œuvre en question. Voilà.
J'allais au casino Monte Carlo, il y avait une salle, ma mère m'a enlevé, mon oncle, qui était mon parrain, était le secrétaire du théâtre. Alors j'allais, quoi. Et à ce moment-là, à Monaco, tous les musiciens venaient, quoi, du monde entier, des types extraordinaires. Et c'est là qu'on a créé, non pas créé, je vois en deuxième audition, la première fois c'était à Vienne, je crois, parce que Ravel avait écrit le concerto pour la main gauche, sous la demande d'un pianiste... manchot de guerre, qui avait Wittgenstein, n'est-ce pas? Alors le type qui avait fait le concerto pour la main gauche, et il était venu jouer à Monte Carlo, parce que Ravel n'était pas très content, parce qu'il avait trahi un peu la partition, parce qu'il n'était pas assez costaud pour jouer tout, n'est-ce pas? Et alors là, j'avais écouté ça, et j'avais vu Ravel à une répétition, comme ça, à 20-30 mètres de moi. Il s'était retourné, j'ai eu peur, et il m'a souri. Mais c'est une époque, monsieur, où on n'allait pas vers les artistes pour leur faire signer quelque chose.
Mathieu Ferré, comment se fait-il que Léo ait attendu si longtemps pour à nouveau diriger un orchestre lorsqu'on songe que l'oratorio donné à Monaco c'était en 1954 et que les nouvelles directions publiques d'orchestre étaient en 1974, soit 20 ans plus tard?
Ben parce que quand il est arrivé chez Barclay, on lui a, on va dire, imposé ou fortement conseillé d'avoir un arrangeur, orchestrateur qui ne met pas en question son talent, mais donc on lui obligeait d'avoir cet orchestrateur pour donner une couleur de la mode de l'époque. Donc c'est pour ça qu'il écrivait plus ses orchestrations lui-même. C'était quelque chose d'imposé.
Voilà. Et il a fallu un déclic pour que ça change.
Mais un jour, il en a eu marre et il a décidé de réenregistrer la chanson du mal-aimé. Et puis c'est à partir de là où il redirige. Ouais.
Retrouvons donc Léo Ferré le 28 octobre 1975 pour la suite de cette aventure musicale lorsqu'il prépare sa série de concerts au Palais des Congrès.
Donc vous revenez à Paris après avoir été à Bruxelles et à Montreux pour diriger un orchestre de, je crois, près de 150 musiciens, 160, au Palais des Congrès à Paris à partir du 7 novembre et sous le signe de France Inter et d'Antenne 2. Au programme, quelques-unes de vos œuvres, mais aussi l'ouverture de Coriolan, le concerto pour la main gauche de Ravel. Paris, après, je le disais, Montreux, après Bruxelles, pourquoi après?
Parce que j'ai fait ça, j'ai reçu l'année dernière un coup de téléphone de Liège où quelqu'un me disait, un ami, me disait qu'il avait reçu un coup de téléphone du conservatoire. Il m'a dit, écoute, on met l'orchestre symphonique de Liège à ta disposition pour faire ce que tu veux.
Ça, et vous n'avez pas trouvé la même chose en France?
Non, bien sûr que non. Je dis bien sûr que non, je ne veux pas être méchant, mais difficile, vous savez. Moi, je suis un type des variétés.
Je suis marqué à vie par les variétés. Ben, les variétés, c'est pas si mal que ça. Les variétés, ça marche, n'est-ce pas? Les gens aiment bien la musique qui leur arrive dans l'oreille par les côtés un peu détournés de vos activités, d'ailleurs, puisqu'il s'agit de radio et de télévision. Et c'est ça qui marche.
Et on s'est dit, Léo Ferré à la tête d'un orchestre, oui. Ça ne marchera pas.
Je ne sais pas si on s'est dit ça. En tous les cas, moi, je n'étais pas sûr non plus, vous savez, monsieur. Mais ça marche. Parce que maintenant, je suis sûr que je sais le faire.
Et ça marche sans baguette, sans partition. L'instinct?
Oui, sans partition, parce que c'est beaucoup plus facile. Vous savez, on disait un jour à Mitropoulos, qui était chef d'orchestre avant de mourir, il était permanent au Philharmonique de New York. On lui a dit, mais pourquoi vous dirigez par cœur les répétitions, ce qui est rare. Et il a dit, parce que c'est plus facile. Mais je crois qu'il avait raison.
La musique. Où était la musique? Dans les salons lustrés aux lustres vénérés. Dans les concerts secrets aux secrets crinolines. Dans les temps reculés aux recules empaffés. Dans les palais conquis aux conquêtes câlines. C'est là qu'elle se pâme, la musique. C'est là qu'elle se perd.
Nous,
c'est dans la rue qu'on la veut, la musique. Et elle y viendra. Et nous l'aurons, la musique. C'est bien dont il est. C'est là, est. Depuis voilà bientôt 30 ans. Depuis voilà bientôt 10 jours. Depuis voilà bientôt ta gorge. Depuis voilà bientôt ta source. Depuis que je traîne ma course au creux des nuits, ma force, ma compatible et mon écorce. Nous c'est ça, c'est ma petite lettre, cela est. Je suis un arbre non daté, depuis que je vois à ma porte, que de l'enfer tu m'apportes, de quoi trancher sur l'avenir, depuis que rien ne se dévore, à part les ombres sur le mur, depuis que tu me sers encore, la défaite sur canapé. Nous c'est ça, est nous ça. Cela doit-il être? Cela est! Une araignée m'a dit bonsoir. Elle s'est traînée au crépuscule. Depuis que mon âme bascule sur des pays plus mécaniques, de plus gavés de musique, je vais porter ma gueule ailleurs. Une araignée m'a dit d'ailleurs, le tout, c'est d'avoir la pratique. Moussessaille, est-ce moussaille? Ludwig, t'es sourdingue? Ludwig, la joie, Ludwig, la paix, Ludwig, l'orthographe, c'est con, et puis c'est d'un très haut panache, et ton vin rouge a fait des taches sur ta portée des contrebasses. Ludwig, réponds, Ludwig. Est-ce que dingue ma parole? Où c'est ça? Est-ce que ça? La musique. Où est-elle aujourd'hui? La musique se meurt, madame. Penses-tu? La musique, tu la trouves à Polytechnique. Entre deux équations, ma chère. Avec Boulez dans sa boutique. Un ministre à la boutonnière. Dans la rue, la musique. Dans la rue, la musique. Music in the street. La musica nelle strade. Beethoven Strasse. Où c'est ça? Est-ce que ça? Dans la rue. La musique. Dans la rue, la musique. Music. Street. La musica nelle strade. La brevo. Beethoven Strasse. Où c'est ça? Est-ce que ça?
Bonjour, Mifri Gitlis.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous évoquer le parcours musical que vous avez eu avec Léo Ferré?
Vous savez, Léo, je pense qu'on a tout dit sur Léo, et non, on n'a pas besoin de dire des choses sur Léo, parce qu'il l'a dit lui-même par ses poèmes, par sa musique et par son regard.
Lorsque vous avez vu Léo Ferré diriger un orchestre, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel souvenir vous en avez?
Émotion. Et qu'est-ce qui est plus important? Hein? C'est aussi simple que ça. Vous savez, quelque part, c'était un enfant. Il s'étonnait lui-même, quelquefois. Et il s'étonnait. Et comme l'artiste qu'il était, les artistes doivent s'étonner, se surprendre. Alors, il était comme un enfant. Puis c'était comme un, tout d'un coup un jeu. Il était, quand il se mettait au piano, de dire qu'il était un grand pianiste ou un grand ceci, c'est pas la chose. Ses mains étaient, pour ainsi dire, l'expression de sa pensée, de son sentiment. Et puis ça se traduisait de cette façon. Et puis les paroles. Et c'était une espèce de mariage tellement unique, je veux dire, entre les poèmes et la musique qu'il faisait. Alors, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Il a commencé à écrire un concerto pour moi, d'ailleurs, pour violon et orchestre.
Tu écris la musique?
J'écris, oui.
Tu l'entends dans la tête?
Oh, j'écris dans la tête. C'est une histoire, ça l'entend dans la tête. C'est pas possible, on sait bien, on a la mémoire du mélange. Moi, j'entends au bois, si je veux, je pense au bois, j'ai la mémoire du hautbois. Puis la flûte, et puis le cor. Et si je me... Le cor anglais, c'est le hautbois grave, bon, ça va. Mais si je veux commencer à mélanger la flûte, le hautbois, la clarinette, j'entends plus le son, c'est pas vrai, quoi. Je dis, bon, ça sera ça. On n'entend pas la musique en soi. Parce que si on entendait la musique en soi, toute la musique en soi, tu sais ce qu'on ferait. Moi, j'écrirais pas. Hein. Tous les jours, je m'écouterais moi-même.
Là, tu parles d'orchestration, je parlais de mélodie. Comment tu écris tes mélodies?
Ah, la mélodie, ça vient au piano pour moi. Oui, la mélodie, ça vient directement, ou ça ne vient pas, hein, bien sûr. J'ai la chance de pouvoir improviser les choses que j'aime, et quand ça va, je les garde. Quand ça va pas, je n'en parle plus, quoi.
Tu peux, là, maintenant, essayer de trouver une mélodie?
Oui, mais le mélodie, c'est facile. Hein.
Oh,
Anna Remakers.
On est toujours dans cette histoire, il a touché à la chanson, donc c'est fini, c'est fini. Il fallait qu'il crève en tant que compositeur de musique classique, qu'il crève dans son coin et qu'il ne soit pas diffusé. Et là, on lui aurait peut-être, 30 ans plus tard, après sa mort, on aurait dit « Ah oui, ce grand compositeur maudit, oublié, machin, etc. » S'il avait peut-être fait cette démarche-là, ça aurait été bon. Et puis aujourd'hui, on aurait dit « Ah oui, ce grand maudit, voilà, on le reprend. » Mais là, il a touché à la chanson, il a fait le piano du pauvre, il a fait machin, et c'est, on a chanté dans des cabarets... Il a eu des tubes, il a eu des trucs. Non, alors c'est pas possible, c'est pas ça, c'est des mondes très séparés, vous comprenez, ça va pas du tout. Léo Ferré, non, classique, non, c'est vrai. Mais c'est l'écoute, le public qui s'en foutra de tout ça, c'était des discussions qui n'ont plus lieu. Maintenant, là, les gens qui vont découvrir Léo Ferré, ils s'en foutent de tout ça, de toutes ces magouilles d'une époque par rapport à un artiste ou de maison de disques par rapport à un artiste. Et donc, ils vont prendre pour ce que c'est en l'écoutant, quoi. Et en l'écoutant, ils se diront, bah oui, ça, on peut le ranger entre Debussy et Fauré, ça gêne pas, quoi. Ou Ravel, et on verra d'ailleurs dans certaines orchestrations de la fin que l'autre frère de composition, après Beethoven, c'est Ravel. Ferré, c'est le suiveur de Ravel, c'est le fils de Ravel. Léo Ferré, c'est un grand compositeur, c'est un grand chef d'orchestre, c'est un grand mélodiste, et c'est son œuvre qui parle pour lui. Que je dise, moi, c'est génial, et que d'autres disent, c'est de la merde, tout ça, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est écouter sa musique et écouter ses disques.
Spécial Léo Ferré, proposé par Martin Penet et Mathieu Ferré. Cette semaine, le musicien, en compagnie de Jacques Douai, Yves Guitlis et Alain Remakers. Nous avons entendu un chant religieux inédit de Léo Ferré, interprété spécialement pour cette émission par Nadine Chéry, mezzo-soprano, accompagnée au piano par Françoise Masiochi. Merci à Florence D'Artois et Anne de Biran pour les archives de l'INA. Mixage Serge Ristich, Franck Berger, réalisation Annie Roger.
C'était la première d'une série de 5 émissions consacrées à Léo Ferré par Martin Penet et Mathieu Ferré, que vous retrouverez samedi prochain à 11h05. Vous écoutez France Musique, il est midi, les dernières nouvelles avec Joël Génard.